sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, comme chaque année, les académies de l'Institut de France effectuent leur rentrée solennelle sous la coupole. Le 5 février 2008, l'Académie des sciences réalisait la sienne avec l'intervention de plusieurs académiciens ainsi que la remise de 56 prix scientifiques avoisinant un total d'1 million d'euros. Dans quelques instants, vous pourrez écouter la communication d'Alain Carpentier, membre de l'Académie des sciences, lauréat du prestigieux prix Lasker 2007. Au cours de cette séance sous la coupole, il développe pour nous les grandes évolutions de la chirurgie depuis les années 1800 avec Henri Davy qui découvre les propriétés anesthésiantes du protoxyde d'azote jusqu'à nos jours avec les nanotechnologies dans le domaine chirurgical. Mais débutons, si vous le voulez bien, par une présentation de l'Académie des sciences par Jules Hoffmann, président pour cette année 2008. La séance se poursuit avec Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Il présente le lauréat de la Grande Médaille 2007 de l'Académie, le chercheur hollandais Thomas Høgfeldt, professeur d'histologie et de biologie cellulaire au Karolinska Institut de Stockholm. Thomas Høgfeldt est un neurobiologiste de notoriété mondiale. Il a apporté une contribution majeure à la compréhension de la neurotransmission concernant la douleur et la dépression. La communication de Thomas Høgfeldt est en anglais. Bonne séance sous la coupole avec Canal Académie.
Madame le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs les lauréats, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette séance annuelle festive de remise des prix de l'Académie des sciences. Je voudrais en particulier saluer les lauréats, leurs familles et leurs amis. Ils sont nombreux aujourd'hui à avoir répondu à notre invitation. Je pense que la plupart d'entre eux ne connaissent pas encore très bien l'Académie des sciences et c'est à eux que je m'adresse en faisant une brève présentation de notre institution. Notre compagnie compte aujourd'hui 237 membres, 122 correspondants et 136 membres associés étrangers. Je voudrais souligner un point important. À la suite d'une vague d'élections récentes, 55% de nos membres actuels, c'est-à-dire plus de la moitié, ont été élus depuis l'an 2000. Cet accroissement du nombre s'est également accompagné d'un rajeunissement significatif dans la mesure où nos statuts requièrent que la moitié au moins des membres élus soient âgés de moins de 55 ans. La situation nouvelle créée par l'accroissement de notre académie nous offre des opportunités formidables, mais elle nous impose également des obligations importantes. Ce qui m'amène de poser devant vous la question suivante. Quels sont les rôles d'une académie des sciences dans un pays moderne au début du XXIe siècle? Historiquement, la première fonction, qui est d'ailleurs à l'origine de la création de nombreuses académies des sciences à travers le monde, est de donner des avis scientifiques sur les questions que peuvent se poser les citoyens et leurs dirigeants. Les atouts d'une académie comme la nôtre sont multiples sur ce plan. Nous réunissons les meilleures compétences sur la plupart des sujets scientifiques. D'autre part, nous sommes tous élus par nos pairs sur des critères purement scientifiques et sommes de ce fait indépendants vis-à-vis des différents pouvoirs, qu'ils soient politiques, sociétaux, religieux ou autres. Cet aspect est garant de l'impartialité de nos avis. Comme les autres académies, nous donnons nos avis soit par des rapports scientifiques exhaustifs, dont la préparation peut nous prendre 1 à 2 années, soit par des courts textes qui sont en général préparés très rapidement. La plupart des rapports et avis sont discutés au sein de l'Académie et font l'objet de votes. Il se peut aussi que certains avis ne soient demandés qu'aux spécialistes du domaine et reflètent leur analyse compétente plutôt que celle de l'Académie dans son ensemble. Les exemples abondent. Il me plaît de souligner que les rapports et avis ne sont pas nécessairement restreints à des questions strictement scientifiques. Ainsi, notre Académie a fait des rapports ou émis des avis en 2007 sur des thèmes comme la place du calcul dans l'enseignement primaire, la recherche scientifique et son organisation, la formation des professeurs à l'enseignement des sciences ou la première année de licence dans les universités. Une deuxième fonction de notre Académie est de contribuer au développement des connaissances scientifiques. Dans cette optique, nous organisons au cours de nos réunions hebdomadaires des débats sur des aspects aussi variés que le changement climatique, l'évolution bactérienne, l'épigénétique, les turbulences ou le chaos. Une demi-douzaine de nos séances hebdomadaires sont réservées chaque année à des conférences sur les défis du XXIe siècle. Ainsi, des conférenciers ont récemment parlé de la fleur, de la matière noire, de l'eau et des effets des changements climatiques sur les êtres vivants, pour ne citer que quelques exemples. Pour nous assurer de rester en contact étroit avec les jeunes générations de chercheurs, nous sélectionnons tous les ans une douzaine de travaux scientifiques publiés par de jeunes chercheurs français dans d'excellentes revues internationales. Nous demandons ensuite à ces jeunes chercheurs de venir nous exposer leurs résultats en séance plénière à l'Académie. Toujours dans l'optique de contribuer au développement des connaissances scientifiques, l'Académie des sciences organise chaque année, seule ou en collaboration avec d'autres académies nationales ou internationales, une demi-douzaine de colloques scientifiques sur des thèmes choisis en raison de leur intérêt particulier. De récents colloques ont porté, par exemple, sur la formation du système solaire, l'évolution du climat, la transition océan-continent, les matériaux pour les réacteurs de la fusion nucléaire, l'immunité ou encore le vieillissement. Je souligne que tous ces débats, défis ou colloques sont ouverts au public. Une troisième fonction importante de l'Académie des sciences est la représentation de la science française au sein du monde scientifique international. Nous participons activement aux travaux de l'Union internationale de la science, aux conseils interacadémiques internationaux, ainsi qu'au Conseil européen des académies. Ce conseil est de création récente et son objectif est de promouvoir la compréhension et le soutien de la science par les autorités européennes à Bruxelles et à Strasbourg. C'est d'ailleurs notre Académie qui vient de prendre en charge l'opération de jumelage entre parlementaires et académiciens européens, prolongeant par là une opération que nous menons avec succès au plan national auprès du Parlement à Paris depuis plusieurs années. Nous participons également tous les ans à la préparation des dossiers scientifiques que traitent les chefs d'État lors des réunions dites du G8. Les thèmes qui seront traités cette année lors de la réunion du mois de juin à Hokkaido concernent la santé globale et l'avènement souhaité d'une société à faible taux de carbone. Je terminerai sur une quatrième fonction de notre Académie qui nous occupe cet après-midi. Il s'agit d'encourager les chercheurs à tous les niveaux de leur carrière en reconnaissant la qualité de leurs travaux scientifiques et en leur attribuant des prix de l'Académie. Pendant de multiples réunions au printemps de chaque année, des comités de l'Académie analysent ainsi une longue liste de dossiers scientifiques et sélectionnent les contributions les plus significatives et les plus originales dans les différentes disciplines scientifiques. L'Académie attribue ensuite aux meilleurs dossiers, en fonction de l'importance de la contribution, des prix thématiques ou des grands prix. C'est un agréable devoir de remercier les mécènes qui nous permettent de remettre ces nombreux prix, dont la somme globale, cet après-midi, est proche de 1 million d'euros. Nous allons en effet remettre 56 prix, en commençant bien sûr par la grande médaille, qui est la plus grande distinction de l'Académie des sciences et qui honore cette année notre confrère suédois Thomas Hochfeldt. Je passe la parole à Jean-François Bach, secrétaire perpétuel.
Comme vient de le dire notre président, la grande médaille est le plus grand honneur décerné par notre Académie. Elle est attribuée une année à la première division, mathématiques, aux sciences physiques, aux sciences de l'univers et à la mécanique, l'autre année à la chimie et aux sciences biologiques et médicales. Cette année, la grande médaille est attribuée à un biologiste de grande renommée internationale, Thomas Hochfeldt. Thomas Hochfeldt est professeur émérite d'histologie et de biologie cellulaire dans le département des neurosciences du très fameux Institut Karolinska de Stockholm. Il a apporté une contribution fondamentale à notre connaissance de la chimie du cerveau. Il fut un des pionniers de l'histochimie cérébrale, particulièrement dans le champ des neuropeptides. Il fut le premier à décrire la carte cérébrale détaillée de la substance P, de la somatostatine, de la galanine et de deux récepteurs pour les neuropeptides, les récepteurs NPY1 et Y2. Surtout, et c'est ce qui lui a valu son entrée dans l'histoire des neurosciences, il a montré qu'un seul et même neurone pouvait produire simultanément, au-delà du médiateur classique, d'une monoamine, un neuropeptide. Et il a décrit les conditions de libération de ces deux types de médiateurs dans des conditions électrophysiologiques précises au niveau des synapses qu'établissent les neurones avec leurs différentes cibles. Il a en outre montré la nature ubiquitaire de ce phénomène, comme dans l'exemple de la cholécystokinine et de la dopamine. Ces travaux représentent une véritable révolution dans l'histoire de neurosciences, car il était admis, après les travaux de Sir Henry Dale, qu'un neurone ne pouvait produire et émettre, à partir de ses terminaisons nerveuses, qu'un seul médiateur. Les travaux de Thomas Tocqueville lui ont valu une notoriété internationale considérable. Il est un des scientifiques les plus cités dans le monde. Il révolutionne notre compréhension de la transmission chimique de l'information dans le cerveau, mais aussi ouvre des perspectives thérapeutiques considérables, notamment en utilisant les neuropeptides dans le traitement de la douleur et de la dépression. Thomas Tocqueville.
Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs, it's indeed an exceptional honor to receive the Grand Medaille, and I express my deep gratitude. It also gives me a possibility to thank my French colleagues for long-standing and stimulating interactions over several decades. Let me also now thank my many co-workers over the years. Without them, no progress. And of course, my family. I'm truly sorry that my wife cannot be here today because for health reasons. My professional life for over more than 40 years now has dealt with the chemical brain, in particular the neurotransmitters and the receptors. They, of course, play a fundamental role in nervous system function, and are apparently deranged in several neuronal and mental diseases, neurodegenerative diseases. Many of the medicines that we use today aim at correcting such dysfunctions. Transmitters and their receptors are also targets for drugs of abuse. Our basic concept has been that knowing the localization of the chemicals in the nervous system allows us, I'm not saying intelligent, but still better design of experiments to understand their function. During the last decades, our work has focused on understanding and finding new strategies for treatment of, in particular, neuropathic pain and depression. My research started in 1962 when a new professor was appointed in our department at Karolinska in Stockholm. It was a person who would change neuroscience more than anyone in Sweden, and I would say he had a big influence on neuroscience in the world. This was Nils-Åke Hillarp, my teacher. He had at that time, together with his student Bengt Falk in Lund and Arvid Carlsson, the Nobel laureate, developed a new method which allowed us to look in the microscope and see the exact localization of certain transmitters like dopamine, noradrenaline, and serotonin. This was the beginning of a new discipline in neuroscience, which was called chemical neuroanatomy. At Karolinska Hillarp, within a few months, gathered a group of 10 young students around him. And the first ones to explore this methodology was Annika Dahlström and Kjell Fuchse, who described the distribution with this method of the monoamine systems in the rat brain. And this is the field that I worked in now for more than four decades. Together with Anders Björklund in Lund, the pioneer in transplantation research, I have edited 21 volumes of a series called Handbook of Chemical Urinatomy, which covers many of the advances in this field for the last decades. And in fact, I see this Grand Medaille as a recognition of this field. The thesis project given to me by Hillarp, my teacher, was, however, not based on the freshness method, but following in the footsteps of Professors Couteau and Taxi here in Paris, I used the electron microscope and could show that the monoamines are present in synaptic vesicles in the brain. Tragically, Hillarp died in 1965, just 49 years old, and just 3 years after his arrival at Karolinska. And I sometimes tell students a little story. As an electron microscopist, you're always down in the cellar in the basement membrane, whereas the coffee room was up on the top of the building. And I worked hard and never had time to go to the coffee. And I didn't like coffee, actually. After Hillarp's death, when I had completed my thesis, which he actually never got to know, I heard the story that he was sitting with his other students around the coffee table, looking around and saying, "So where is Thomas?" Me. And of course, I was not there because I was down in the cellar perfusing rats. So his comment was, "Well, Thomas is probably not so interested in research." So I guess the message that I have for the students is, go and drink coffee with your professors. Since there are not so many students here, I guess, I also have a message to the professors. Don't think that your student is lazy if he isn't attending the coffee pause. At that time, there was no method to identify other transmitters like the important inhibitory transmitter GABA. So my first graduate students, Åke Ljungdahl, who died some years ago, was to use autoradiography and tritiated GABA and in this way localize the GABA neurons. And we succeeded for the first time to show GABA neurons in the microscope. Even if the Falk-Hillarp technique and autoradiography are very powerful techniques, they have their limitations. And the introduction of immunohistochemistry in neurobiology meant the revolution. This was a technique that was developed already in the early 1940s by Albert Kunz, who was professor at Harvard Medical School. And he was a microbiologist, and the technique was used almost exclusively in bacteriology and virology up till the end of the 1960s. And this is really different now. I looked recently up in PubMed under the term immunohistochemistry, and there were more than 400,000 hits. And almost all of them were after 1970. And this reflects the increasing interest in gaining morphological information at the cellular level in all types of biomedical studies. We were fortunate to collaborate with Dr. Menek Goldstein, who died some years ago at New York University Medical School, who purified the enzymes in the catechol-amine synthesis and raised antibodies, which we then used and could demonstrate, for example, that there is an adrenaline system in the rat brain. And ever since then, antibodies have been the oxygen of my scientific life. Another field opened up in the early 1970s when it became clear that neuropeptides represented a new and very large group of transmitter candidates, maybe 100 and even more receptors. We have mapped some of them, and sometimes you make an interesting finding. Thus, we noted that some noradrenergic neurons in the sympathetic nervous system were expressing the 3-decapeptide somatostatin, which was discovered in Dr. Guy Mang's laboratory at Salk Institute. This was the first example that a mammalian neuron can synthesize both a classic transmitter, noradrenaline, and a peptide that is more than one messenger molecule. And that is a phenomenon which we call coexistence of transmitters. These results evoked interest since there was a rule that was saying that the one neuron is only producing one neurotransmitter. So this provided a new view on signaling in the nervous system. You could say that a neuron speaks many languages. Another graduate student, Jan Lundberg, now head of global research at AstraZeneca, the pharmaceutical company, explored the functional role of coexistence, demonstrating, for example, differential subcellular storage sites and a frequency-dependent release of amine versus peptide. Coexistence of transmitters is very frequent, in fact, the rule. And we now know that it encompasses all types of transmitters, fast amino acids, peptides, nitric oxide, and so on. So we hope and we believe that this has therapeutic consequences. Unfortunately, so far, no centrally acting drug based on a peptidoid mechanism and coexistence has reached the clinic, but we have not given up the hope. Perhaps Sanofi Aventis, who is very active on this field, may be successful. We keep our fingers crossed. Finally, seeing how much wonderful research is now done worldwide in so many disciplines, I feel quite embarrassed to be recipient of the prestigious Grand Medaille. Even in my own field, novel techniques based on genetic methods, ingenious instruments, have advanced the chemical neuroanatomy at a breathtaking pace. So I am grateful to receive the Grand Medaille now before all new work fully overshadows the research done in my laboratory. Thank you so much.
Professeur Alain Carpentier va nous faire un exposé sur la chirurgie, grande mutation dans cette discipline. Monsieur Carpentier a reçu récemment la médaille Lasker, qui est une des plus prestigieuses récompenses en sciences.
Bien, après avoir admiré cet incroyable panorama de la science telle qu'elle se fait actuellement dans notre pays, et s'en trouver réconforté, je pense, et après avoir félicité ceux qui l'animent, je vais vous parler d'un sujet tout à fait différent et surprenant. La chirurgie, et cela pour deux raisons. D'abord parce que c'est ma discipline, et ensuite parce qu'elle est en pleine mutation. Elle connaît un bouleversement extraordinaire, et c'est ce dont je veux vous parler. Bouleversement au point que nous ne reconnaîtrons pas demain ni la chirurgie, ni le chirurgien. Paul Valéry disait « Ouvrirai-je le chirurgien ?» Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long, j'ouvre et je referme. La chirurgie est de plus en plus dépendante des sciences et des sciences fondamentales aujourd'hui. Ça n'est pas nouveau, ça remonte aux premières heures de la chirurgie, mais c'est surtout à la fin des années 1850 que ce mouvement s'est accentué. La chimie a donné lieu à l'anesthésie, la physique à la radiologie, la biologie à la microbiologie, et la physiologie à la réanimation. Alors très brièvement, je vais revoir un petit peu ces contributions très rapidement, ne serait-ce que pour rendre hommage à certains noms. Commençons par la physique. Röntgen, dans les années 1880, est un physicien allemand qui s'intéresse aux rayons cathodiques. Plaçant un jour sa main entre la source des rayons et une plaque photographique, il a la surprise de voir le squelette de cette main sur l'écran. En fait, ce n'était pas sa main, c'était la main de sa femme. Enfin bon, on ne prend jamais assez de précautions. La chirurgie des fractures et des entorses et autres luxations s'en est trouvée bouleversée. Dans les années 1800, deux chimistes britanniques, dont l'un s'appelait Davy, s'intéressent au protoxyde d'azote. Alors ce fameux Davy essaye sur lui-même, car les scientifiques sont toujours prêts à se sacrifier, essaie sur lui-même ce gaz, ce protoxyde d'azote, et il note premièrement que ça supprime la douleur et deuxièmement que ça l'endort avec un réveil euphorique. Ça a été ce qu'on a appelé le gaz hilarant, et ce gaz hilarant a connu son heure de gloire sur les foires, car évidemment ça a amusé les badauds. Et pendant 40 ans, cette possibilité de ce gaz n'a pas été exploitée. Quand deux chirurgiens dentistes se sont dit, mais après tout, pourquoi nous n'utiliserions pas cette possibilité, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, et ça a été le grand départ de l'anesthésie, qui connut un succès foudroyant, au point que même la reine Victoria a exigé d'être endormie pour la naissance de son enfant. C'était la première application de l'anesthésie sans douleur. Voyons la biologie maintenant. Naturellement, le Pasteur, le grand Pasteur, qui était chimiste d'abord, mais est devenu biologiste, est possesseur d'une vigne en Arbois, comme vous le savez, et il montre en 1860 que la fermentation alcoolique est due à des micro-organismes. C'était complètement révolutionnaire. Et ça a été le début d'une bataille homérique sous cette coupole, entre Pasteur lui-même et un certain Pouchet qui restait adepte de la génération spontanée. Pasteur resta longtemps incompris, des années incompris par ses pairs, y compris ici, et sauf par un chirurgien anglais qui s'appelait Lister et qui a tout de suite compris le parti qu'il pouvait en tirer et qui a créé ce que vous connaissez être l'asepsie. Mais l'asepsie mit quelque 30 ans avant de pénétrer partout en chirurgie. Enfin, le dernier point, la biologie et la réanimation, la physiologie, il fallut attendre Jean Amburger et quelques autres pour tirer les leçons de Claude Bernard, physiologiste et biologiste renommé, découvreur de la notion de milieu intérieur et quatrième acteur de ces 40 glorieuses années de la fin du XIXe siècle. Si j'ai brossé rapidement ce tableau des débuts de la chirurgie, c'est, on l'aura compris, pour rendre hommage aux contributions décisives des sciences à la santé des hommes. C'est aussi pour montrer que le progrès n'est pas un long fleuve tranquille qui est souvent dirigé, mu par les patients et freiné par l'obscurantisme. Mais quels sont aujourd'hui les facteurs de progrès en chirurgie et les forces qui la gouvernent? Trois peuvent être cités: les malades, la recherche et l'industrie. Je traiterai principalement des malades, car c'est notre préoccupation première. C'est-à-dire, après tout, de nous tous, si l'on en croit Jules Romain, qui faisait dire, vous vous en souvenez, au docteur Knock, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Les malades, donc, redoutent la chirurgie, et ils ont en partie raison, mais quand elle devient nécessaire, ils expriment trois désirs. Le premier, c'est qu'ils veulent se réveiller après l'anesthésie. Le second, ils ne veulent pas souffrir. Et le troisième, c'est qu'ils veulent guérir dans les délais les plus brefs. Et bien ça, on les comprend, et ces desiderata tout à fait compréhensibles sont de mieux en mieux respectés, pris en compte aujourd'hui par les chirurgiens. Pris en compte par un nouveau concept dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la chirurgie mini-invasive. Alors, qu'est-ce que c'est, cette chirurgie mini-invasive? C'est l'un des plus remarquables volets de cette mutation dont je vous entretiens. Jugez-en. La taille des incisions a été réduite à quelques centimètres seulement. Les désordres osseux et musculaires provoqués par l'ouverture sont très limités, tout comme le son, par conséquent, douleur, saignement, choc opératoire et durée d'hospitalisation. Aujourd'hui, dans ma discipline, la chirurgie du cœur, les opérés quittent l'hôpital en moyenne 6 à 7 jours, quelquefois moins après l'opération, contre 10 à 14 jours il y a 10 ans seulement. Le revers de la médaille est que l'opération est beaucoup plus difficile pour le chirurgien, de sorte que l'acte chirurgical risque fort d'être imparfait. Alors comment pallier ces inconvénients? Eh bien, encore une fois, par le recours aux sciences et aux technologies. Miniaturisation des instruments, microscopie optique, tridimensionnelle, assistance gestuelle par ordinateur, navigation tissulaire sous contrôle d'imagerie par scanner, résonance magnétique, nucléaire ou ultrason. La liste est longue de ces technologies qui contribuent à assurer pour le chirurgien aisance et précision nécessaires. Je vais prendre seulement un exemple, la chirurgie robotique, parce que j'ai été mêlé de près à son développement, et pour vous faire cet exemple. Alors, on est dans une salle d'opération. Dans la salle d'opération, au lieu d'avoir des infirmières et puis les anesthésistes, etc., il y a un robot. La seule chose qu'on voit, c'est un robot. Le robot, c'est une espèce d'araignée à quatre bras articulés, mu par ordinateur, qui surplombe le malade. Trois de ses bras possèdent à leur extrémité une main mécanique miniaturisée qui peut se mouvoir comme une main chirurgicale dans toutes les directions. Le quatrième bras porte un tube optique à vision tridimensionnelle et l'extrémité de ses bras et le tube optique sont introduits dans le thorax du malade par des orifices de moins de 2 cm et le chirurgien et son aide peuvent être assis à côté ou dans un autre hôpital, voire dans un autre pays. C'est la téléchirurgie. Alors, que fait le chirurgien? Eh bien, il regarde dans cette optique tridimensionnelle, mais aussi il manie des leviers, comme les jeux vidéo, et ces leviers animent à l'intérieur du malade les instruments. Je ne sais pas comment vous faire traduire l'émotion qu'on peut avoir quand on est en train de visualiser ce que l'on voit à l'intérieur du malade. On a l'impression d'être dans un cœur, de pouvoir toucher les parois, et c'est très, très émouvant. Alors, ceci dit, cette chirurgie mini-invasive assistée par l'ordinateur n'en est qu'à ses débuts. Elle nécessite pour son plein développement amélioration technique, formation spécifique des chirurgiens et sagesse de leurs indications. Alors, faisons un pas de plus dans l'avenir, disons 10 ans seulement. Le malade qui s'ignore, dont je parlais tout à l'heure, est beaucoup plus âgé et, grâce aux médias, n'ignore rien des mesures de prévention qui lui permettent de gérer lui-même son capital santé. Il sait que pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, il peut peser sur son destin à condition de respecter certaines règles de prévention, être actif, faire du sport, surveiller sa tension, ne pas fumer, bien sûr, même pour les jeunes filles, ne pas grossir, boire avec mesure et, demain peut-être, prendre chaque mois la potion de jouvence inventée par un académicien et la pilule de bonheur développée par un autre. De quoi vivre heureux jusqu'à 100 ans. Malheureusement, beaucoup de gens ne respectent pas ces mesures de médecine préventive qui, disent-ils, gâchent la vie alors qu'elles la préservent. Ainsi, cancers, infections, maladies dégénératives persistent malgré les progrès spectaculaires de la médecine et de la pharmacologie. Le chirurgien est donc encore nécessaire. Mais il a bien changé, lui aussi. Ce n'est plus un artiste, ce n'est plus un manuel, c'est un scientifique de haut niveau qui fait partie d'une équipe pluridisciplinaire. Sa propre discipline, d'ailleurs, a changé de nom. Elle s'appelle chirurgie ou médecine interventionnelle. En fait, le chirurgien est de plus en plus spécialisé grâce à une formation complémentaire nécessaire dans des disciplines fondamentales qui lui sont nécessaires pour développer les techniques qui l'intéressent. Oh, certes, l'acte chirurgical qui consistait depuis toujours à resséquer, couper, réparer, coudre, substituer, cet acte chirurgical existe encore, mais à quelques exceptions près, il se fait sans anesthésie. Il se fait sans anesthésie et générale et sans ouvrir le cœur, c'est-à-dire par les voies naturelles ou par pénétration transcutanée en utilisant endoscope, sondes dirigées par ordinateur, etc. Quelques exemples, les anévrismes cérébraux, les anévrismes abdominaux, si redoutés autrefois à cause des ruptures auxquelles ils exposent, c'est une application de la loi de Laplace. La tension est d'autant plus importante que la pression l'est et que le diamètre de l'anévrisme l'est aussi. Eh bien, ces anévrismes sont traités par des sondes montées à l'intérieur de l'anévrisme et qui embolisent et excluent donc l'anévrisme et protègent de sa rupture. Mon domaine, les bioprothèses valvulaires, ne sont plus introduits par des grandes balafres, par des grandes incisions, mais par des petites incisions sous anesthésie locale, tenez-vous bien, sous anesthésie locale par le cou, on introduit une bioprothèse qui est comprimée, une valve artificielle, bioprothèse c'est une valve artificielle, comprimée, et on l'introduit jusqu'au corps où on la dilate et elle se fixe sur les parois. Mais j'attends encore une nouvelle technique de visualisation qui permettrait de voir dans le sang pour réparer des malformations cardiaques. La chirurgie du cerveau fait des progrès spectaculaires. Bien des malades sont traités et améliorés efficacement par stimulation électrique des territoires identifiés avec précision. On l'a vu tout à l'heure et on a récompensé l'un des protagonistes. Identifié avec précision par IRM et abordé par neuronavigation. Les tumeurs sont traitées comme hier par chimiothérapie et radiation, mais aussi maintenant par ultrasons, ou du moins demain. Et l'épilepsie bénéficie des dernières techniques laser. La neuromodulation, utilisée avec sagesse et discernement, change la vie et l'avenir de nombreuses psychopathies. Il n'est pas de discipline, gastro-entérologie, ophtalmologie, otologie, endocrinologie, qui ne bénéficie des progrès accomplis en biologie moléculaire, en génétique, en immunologie et en thérapie cellulaire. Les greffes tissulaires et les transplantations d'organes, grâce au progrès de l'immunologie, les organes artificiels, grâce à la collaboration étroite avec l'industrie, sont en plein développement. Je parle actuellement et dans les 10 ans qui viennent. L'enjeu pour ces derniers, je veux parler des organes artificiels, est de les rendre définitivement implantables, alors qu'actuellement, ils sont des appareils d'assistance extracorporelle. Donc il faut qu'on arrive à les mettre à l'intérieur. On parle de reins, de pancréas, de cœur artificiel, et les problèmes techniques, certes, qui se posent sont considérables. Mais sans pouvoir entrer dans les détails, je mentionnerai simplement les principaux, la miniaturisation, la compatibilité anatomique, la tolérance biologique, la fiabilité des capteurs et la durée d'autonomie des batteries implantables capables de délivrer la puissance de 35 watts nécessaire au fonctionnement du cœur artificiel que notre équipe est en train de développer avec une très grande industrie française. Le deuxième enjeu est d'ordre économique. Tout doit être pensé pour que le prix de ces appareillages soit moindre que le coût des soins médicaux palliatifs de longue haleine dispensés nécessairement en leur absence aux malades. Une chose certaine pour moi est que, une fois ces conditions de prix et d'efficacité requises, ces appareils révolutionnaires entreront dans l'arsenal thérapeutique de demain. Et la seule question qui se pose est de savoir si ça se fera avec nous ou, encore une fois, ailleurs, outre-Atlantique. Mais voici que se dessine une troisième avancée, celle des nanotechnologies. Il s'agit d'introduire dans les cellules des particules nanométriques, oxyde de fer par exemple, dotées de propriétés d'aimantation, d'attraction ou d'excitation par des champs magnétiques. Ces particules peuvent être de nouveaux agents de contraste en imagerie, des détecteurs biologiques, des transporteurs de médicaments ou de gènes d'intérêt. En quoi peuvent-elles servir la chirurgie ? En marquant les contours précis de tumeurs pour en faciliter l'exérèse complète, en détruisant les foyers tumoraux à distance, que l'on appelle les métastases, et en détruisant des foyers, des ganglions inaccessibles à la chirurgie. Ou encore, en servant de vecteurs à des cellules régénératrices ou sécrétrices, acheminées jusqu'à leur cible par des champs magnétiques appropriés. On voit bien qu'après ce catalogue dont j'excuse totalement à la fois la brièveté, mais je ne pouvais tout mentionner, on voit bien que la chirurgie invasive que nous connaissons aujourd'hui est en train de disparaître et que vous la verrez progressivement disparaître. Il lui restera sans doute la grande traumatologie, la chirurgie plastique et reconstructrice, les transplantations d'organes, l'implantation d'organes artificiels. Mais la responsabilité du chirurgien sera en outre de développer des techniques chirurgicales nouvelles, toujours plus efficaces, de moins en moins invasives, et de faire partie, voire animer, ces équipes pluridisciplinaires qui auront la responsabilité de choisir parmi les nombreuses options thérapeutiques possibles, la meilleure qui soit pour chaque malade. Aussi efficaces que soient ces nouvelles technologies, aussi profonde la mutation de la chirurgie et aussi attractifs ces nouveaux moyens, je pense que, grâce à une rigoureuse attention prêtée aux recommandations de la médecine préventive, vous n'en aurez pas besoin. Du moins, c'est le vœu que je forme.
Ainsi se termine la séance sous la coupole de l'Académie des sciences qui s'est déroulée le 5 février 2008 à l'Institut de France. Retrouvez l'ensemble des communications de Jules Hoffmann, président pour l'année 2008 de l'Académie des sciences, ainsi que d'Alain Carpentier sur le site www.academie-sciences.fr. Retrouvez par ailleurs sur notre site www.canalacademie.com nos émissions en compagnie de Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et Alain Carpentier qui développe au cours d'une émission, son invention révolutionnaire des bioprothèses cardiaques. Merci d'être toujours plus nombreux à l'écoute de Canal Académie et à très vite pour de nouvelles émissions.